Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Anne Kefelec.
Bonjour.
Alors nous sommes à Nantes, c'est l'année Chopin, et ça tombe bien, vous avez sorti un album Chopin qui a un sous-titre ou un surtitre, je ne sais pas comment on doit dire, qui est « De l'enfance à la plénitude ».
Oui.
Pourquoi vous vouliez donner, ce qui est assez inhabituel parfois dans le monde du classique, de donner un titre
au-delà du contenu, la thématique,
oui. Et de donner un titre en plus.
C'est vrai, mais je pense que, pour moi, c'était important dans la mesure où il existe beaucoup cette formule de récital Chopin avec des pièces diverses, de tous les genres que Chopin a abordés, les valses, les mazurkas, les nocturnes, les études, scherzo. Bon, ça s'est énormément fait et magnifiquement d'ailleurs, il y a des pures merveilles dans ces enregistrements. Mais moi, l'idée de mon parcours était différente parce que j'avais eu envie, à la suite de la réflexion que j'avais vis-à-vis de Chopin, pas dans le cadre de la folle journée, disons. C'est toute une aventure, une approche un peu particulière, il faut bien dire, au sein de cette folle journée, on en reparlera. Mais de partir de l'enfance, puisqu'il n'y a quasiment pas là, d'enregistrement des pièces d'enfance. Chopin a écrit des polonaises quand il avait 7 ans. Et déjà, dans ces toutes petites pièces, il y a cette grâce qui lui est propre, il y a déjà un ton, il y a déjà une voix qui est celle de Chopin. Et à vrai dire que j'ai découverte moi-même à l'occasion justement de l'idée de cet enregistrement et puis de l'intégrale Chopin que je vais vivre à la folle journée de Nantes avec plusieurs collègues. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour le public de voir cette évolution à partir de ces petites pièces de la tendre enfance jusqu'aux œuvres, certaines œuvres de la maturité, justement, que je n'ai pas voulu appeler maturité. Dans un premier temps, je m'étais dit enfance à la maturité, mais en fin de compte, Chopin est mort à 39 ans et il est encore un homme très jeune. Et puis plénitude me convenait mieux par rapport à, parce que c'est pour un génie, il n'y a pas d'âge d'une certaine façon. Donc cette notion de maturité, elle est ambiguë puisqu'elle a l'air de se rattacher à une chronologie. Or, il a déjà écrit même à 20 ans et 25 ans des chefs-d'œuvre. Mais je trouvais que la plénitude était justement plus vaste comme notion. Et cela dit, j'ai suivi quasiment l'ordre chronologique de ces pièces, justement pour qu'on voit ce parcours. Et il est vraiment très émouvant, cet accompagnement du piano, il faut bien dire aussi, puisque c'est la caractéristique aussi de Chopin, c'est quand même le seul immense compositeur qui se soit voué complètement à un seul instrument, lequel instrument est le piano, qui est un petit orchestre en miniature, enfin, en résumé en quelque sorte. Évidemment, on ne peut pas imaginer un compositeur qui se consacrerait toute sa vie à la flûte, par exemple, ou même à l'instrument monodique, même si Paganini a écrit les caprices et s'est voué au violon toute sa vie, n'empêche que du fait qu'il n'y a pas la richesse harmonique qui est possible au piano, évidemment, on ne pourrait pas imaginer le même cas de figure donc avec un autre instrument. Mais quand même, vis-à-vis du piano, Chopin est le seul à vraiment s'être identifié comme ça complètement à cet instrument et à être entré malgré ça, malgré le fait qu'on pourrait dire que c'est une limite, puisqu'il s'est voué, il y avait une sorte d'exclusive, il n'a quasiment pas écrit par ailleurs pour orchestre ou musique de chambre, etc. Très, très, très peu, ça reste très marginal. Néanmoins, il est entré dans le panthéon des grands génies musicaux que le grand public chérit et connaît. Il est aussi familier à l'inconscient collectif ou à la mémoire collective que Beethoven, que Bach, que Mozart, Schubert. Chopin fait partie vraiment de ces figures révérées.
Et justement, comment cette particularité de ce compositeur voué à un instrument qui s'avère en plus être le vôtre, comment il a vécu avec vous tout au long de votre vie, c'est-à-dire tout au long de votre apprentissage de l'instrument, de votre carrière, etc. Parlez-nous un peu de votre histoire, j'allais dire, avec Chopin, c'est-à-dire avec son œuvre. Est-ce qu'il y a eu des moments de... il reste toujours en vous, mais est-ce qu'il y a eu des moments de rejet? Est-ce qu'il y a eu des...
Ça va être une histoire un peu privée, voilà. Oui, tout à fait.
Des rebondissements
Absolument. Mais c'était... Évidemment, d'abord, le pianiste... je ne peux pas dire qu'il est assis, il n'est pas assis, mais il est au pied d'une montagne immense qui est le répertoire qui a été écrit pour son instrument, qui est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, quand on pense à Beethoven, Mozart, etc., et Schubert et compagnie. Et ce sont les figures les plus connues, mais voilà, ils sont pléthores. Donc, de toute façon, nous sommes obligés de faire un choix et de nous limiter quand même à des répertoires particuliers, spécifiques, selon aussi la sensibilité, les affinités qu'on a avec tel ou tel univers. Cela dit, Chopin, personne, aucun pianiste en tout cas, ne peut faire l'impasse sur Chopin quand il est, comme vous dites, en effet, dans les années d'apprentissage.
C'est ce que disait Boris Berezovsky tout à l'heure, il disait on doit jouer quand on commence, on est obligé, presque, il disait ça.
Absolument.
Très dans les pieds.
Incontournable. C'est-à-dire parce que non, mais on traîne dans les pieds ou les mains parce que c'est une musique extrêmement difficile. Mais Chopin était quelqu'un qui avait l'intelligence du clavier et de la main et qui a étudié ça, qui était un grand grand pédagogue et qui a beaucoup réfléchi à la manière d'utiliser au mieux la main sur le clavier. Et donc, il a écrit en conséquence des œuvres, ces cycles d'études en particulier, mais finalement, toutes ces pièces sont écrites avec, par exemple, des choix de tonalité qui sont extraordinairement intelligents et ergonomiques. Alors que, par exemple, quelqu'un comme Schubert ne faisait pas forcément attention à ça, et ce qui rend souvent l'écriture maladroite, si vous voulez, pour la main, simplement ça. Alors, ça n'empêche que ça reste extrêmement difficile, mais qu'en effet, c'est obligé de passer par la case Chopin. Et après, je pense que il y a peut-être du fait que c'est associé, ce souvenir, la musique de Chopin est associée à des concours, à des examens, à des moments où on en a, on peut dire, familièrement bavé avec lui. Et puis on a envie de voir du pays, donc on explore beaucoup d'autres domaines. En tout cas, moi, ça s'est passé un peu comme ça. Je l'ai un peu délaissé, je reconnais. Après, je me suis lancé beaucoup plus dans Mozart, Schubert, musique française, beaucoup. Pas mal, en effet, d'années, loin de lui. J'y suis revenue peu à peu, comme ça, avec des pièces spécifiques que je mettais en rapport dans des programmes avec des œuvres de compositeurs différents, mais qui me semblaient d'un esprit proche. Et ayant notamment joué énormément Mozart, j'ai compris, en revenant après vers Chopin, pourquoi Mozart était son compositeur chéri, son compositeur favori. Il a souhaité que le Requiem soit joué à ses obsèques, et c'était son dieu. Et je pense qu'il y a en effet une parenté d'âme entre ces deux univers qui a priori sont très différents, mais néanmoins tous les deux sont très très attachés au chant. L'idée du chant, même si Chopin n'a pas écrit d'opéra, il n'arrêtait pas de dire que le piano devait chanter, qu'il fallait pour bien jouer du piano écouter les grands chanteurs. Il était hanté par le bel canto. Mozart, tout ce qu'il a écrit pour le piano, c'est de l'opéra. C'est les sonates pour piano, c'est de l'opéra. Les concertos pour piano, c'est de l'opéra. Donc il y a cette dimension-là du chant, de l'amour, de la mélodie, de la ligne mélodique. Et puis il y a cette clarté, cette transparence de l'écriture aussi, deux musiques dans lesquelles on ne peut pas tricher, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas faire semblant, il n'y a pas de bluff possible. Et puis en même temps, une retenue, et c'est là pour moi où Chopin est aussi à part dans la musique dite romantique, c'est que l'esprit de sa musique est romantique dans la liberté, dans l'inspiration, dans la sensibilité, la poésie, le rêve qu'elle porte en elle. Mais en même temps, il y a aussi une grande retenue pour moi dans cette musique. Il y a aussi une sorte de pudeur. Et là, je le rattache aussi à sa part française. Parce que son père était français, il a vécu la moitié de sa vie en France. Il était évidemment... ses racines, son enracinement d'enfance et de langue maternelle, c'était évidemment la Pologne, et je pense que ça s'est d'autant plus exacerbé, son rapport à la Pologne, qu'il l'avait quittée et qu'il n'y est plus retourné, donc il était hanté par cet éloignement et cette espèce de culpabilité aussi d'avoir quitté son pays au moment où le pays était envahi et était dans la pire détresse. Donc je pense que son côté polonais, sa dimension polonaise est d'autant plus ressortie à ce moment-là parce qu'il y avait une espèce de nécessité peut-être affective, mais néanmoins sa part française, qu'il le veuille lui ou non, elle était bel et bien là, et il a été aussi énormément nourri et stimulé par les aussi à travers cette Française qui a tellement compté pour lui, qui était George Sand à qui on doit une fière chandelle, parce que je suis sûre qu'il serait mort plus jeune si elle n'avait pas veillé sur lui, sur sa santé. On peut dire qu'elle a été très dure au moment de la rupture, mais néanmoins, pendant 9 ans, il y a eu cette relation qui a été pour Chopin très 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 stimulante, très nourrissante et puis protectrice vraiment sur le plan de sa santé. Les 6 mois à 9 ans à la campagne tous les ans, c'était quand même aussi très bénéfique certainement pour lui.
Est-ce que vous avez des interprètes de Chopin de prédilection plus que d'autres? Pareil, les plus grands pianistes de l'histoire sont attaqués à ce monument. Est-ce qu'il y en a, est-ce que malgré tout, il y en a quelques-uns qui vous touchent plus que d'autres?
Bon, d'abord, je ne connais pas tous les grands pianistes. Mais, disons, je n'ai pas une connaissance familière de tout un chacun. Il y en a de toute façon vers lesquels je vais plus que d'autres. Alors, dans ce toujours envie, évidemment, Murray Perahia, par exemple, que j'aime infiniment, mais dans tous les répertoires, lui, de toute façon, quoi qu'il touche. Mais dans les grands pianistes, alors de référence, évidemment, Cortot. Alors, dont Chopin, qui était donc un grand pianiste français, qui reste quelqu'un, en tout cas, je n'aime pas trop dire qu'il y a la référence. Il n'y a pas qu'une vérité en musique, il n'y a pas deux vérités d'ailleurs, il y a des justesses, il y a des approches qui sont éclatantes, éblouissantes, mais qui sont différentes, et c'est la force et la richesse de la musique aussi. Il y a évidemment, alors dans un autre genre, tout à fait, parce que c'est un autre personnage, mais alors Rubinstein, fantastique, Arthur Rubinstein dans les Mazurkas, et puis des anciens, alors moins connus parce qu'ils ont, il y avait peu d'enregistrements du fait de leur âge, de leur appartenance à une époque donnée, Ignaz Friedman, merveilleux, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont actuellement aussi Sokolov, que j'ai entendu dans des mazurkas, qui était absolument inoubliable, un pianiste tchèque aussi qu'on connaît pas assez en France, Ivan Moravec, voilà, qui est aussi un magnifique chopinien. Et puis bien sûr, bon, les Christian Zimmermann, des pianistes vraiment de cette classe et race extraordinaire aussi, bien sûr. Enfin, si vous voulez, c'est toujours difficile de citer parce que il y en a.
Quel catalogue.
Beaucoup. Oui, et puis après on se dit, oh, j'ai oublié celui-là. mais il y a aussi des. D'une façon générale, je trouve qu'avec toute musique, il y a aussi des affinités avec des œuvres spécifiques, pas forcément seulement un compositeur dans son entier, mais il y a des œuvres spécifiques avec lesquelles on entretient une relation au cours de sa vie, qui est comme avec une personne, avec un être cher, et qu'on finit par intégrer, qu'on finit par faire sienne. Et donc ça se sent aussi chez ces grands pianistes.
Je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur Chopin, que tous les pianistes finalement jouent un autre, mais que malgré tout après on choisit un peu son répertoire. Quand on regarde un peu votre discographie, vous avez un peu joué...
Je me suis promenée.
Tout, ouais. Vous êtes beaucoup, beaucoup promenée. Je me disais, mais quels sont un peu les compositeurs qu'Anne Kefelec n'a pas abordé. C'est assez impressionnant de voir quand même. Donc je voudrais savoir comment vous... Est-ce que, voilà, vous avez évoqué le mot promener, est-ce que finalement vous promenez dans une sorte de grand jardin de compositeurs en passant l'un à l'autre? C'est une sorte de valse avec... comment on évolue de l'un à l'autre, bon, comment on change de...
Mais merci de votre regard généreux, mais en tout cas, je vais corriger un peu dans la mesure où c'est vrai que j'ai abordé beaucoup de domaines différents, mais il y en a aussi... Un bon nombre, je vais vous les citer, sur lesquels j'ai fait l'impasse.
Vous avez la liste, donc vous avez quand même...
J'ai fait l'impasse, parfois aussi, tout simplement pour une histoire de taille de main, mais pas seulement. Par exemple, la musique russe, Rachmaninov, entre autres, ou Tchaïkovski, ce sont des musiques que j'adore écouter par d'autres, mais dont je n'ai pas besoin vitalement. Alors, et là aussi, qui sont souvent très grandes pour les mains. Dans un sens, ça m'arrange que comme ça, je n'ai même pas me posé la question. Il y a aussi la musique espagnole, que je trouve aussi fascinante. Et quand j'entends Alicia de la Rocha, entre autres, jouer Iberia, c'est une musique d'une richesse.
Une musique même qui est peu enregistrée, d'ailleurs, en général.
Oui, mais de plus maintenant.
Plus, qui commence à revenir un peu.
Oui, les jeunes générations, des jeunes interprètes aussi. Il y a eu oui, il y a Hervé Billiot, il y a Jean-François Esser, et il y a une bonne correspondance entre la musique espagnole et la musique française. Ravel et Debussy ont donné des coups de chapeau. Mais vous voyez, donc déjà, ça impasse là-dessus. Les grands Brahms, parce que grandes mains, parce que voilà. Donc, hélas, j'aurais adoré jouer les concertos de Brahms, mais je pense que quand même, là, si on a un centimètre de plus à chaque doigt, ça aide. Bon. Alors, par contre, dans tous les autres grands compositeurs que j'ai abordés, il en reste un bon nombre. C'est vrai que je pense que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux œuvres sont des œuvres particulières vers lesquelles je suis allée. Et je trouve finalement, avec le recul, quand on réfléchit un petit peu à pourquoi je suis allée vers cette œuvre-là plutôt que celle-ci, très souvent, il y a en commun une forme de lumière. Je vais peut-être plus vers la lumière que vers... par exemple, une musique que je ne jouerai pas, c'est Scriabine, parce que le côté éclaté et noir, noir, même morbide de cette musique, par ailleurs, encore une fois, c'est quelqu'un qui a du génie, je ne fais pas un jugement de valeur, mais moi, je me sens moins attirée par ce monde-là que par... Alors, l'homme de ma vie, c'est Mozart, voilà, ça c'est clair et net. Et puis Schubert et Scrooge dont je vous parlais tout à l'heure, puis Jean-Sébastien Bach, alors qu'il lui a le génie de remettre tout en place, de tout faire qu'intérieurement on se ressente, on se rassemble, on se reconstruit, et c'est comme si on branchait une prise de courant, vous voyez, sur une source d'énergie et de force. Et puis Beethoven aussi, bien sûr. Mais alors Beethoven, par exemple, Mon grand amour, c'est le 4e concerto, c'est la sonate opus 110. Peut-être plus, même si j'adore écouter la sonate impassionata, par exemple, ou la sonate à mer clavier, mais ma favorite, c'est l'opus 110. Et il y a une lumière dans l'opus 110, par exemple, qui est l'avant-dernière sonate, la 31e. Donc, vous voyez, il y a quand même... Ça a l'air comme ça, très dispersé, et un peu de touche à tout, mais il y a au fond quelque chose qui appartient à ces œuvres-là, je trouve, qui les réunit.
que ça représente pour vous un enregistrement, un disque, quelque chose qui est par rapport au concert, quelque chose qui reste, qu'on enregistre, etc. Comment vous choisissez les œuvres que vous voulez enregistrer, les programmes? Là, vous nous avez décrit un peu la spécificité de ce que vous vouliez faire par rapport à Chopin. En général, et quelle valeur vous donnez au disque? Est-ce que pour vous, c'est une valeur similaire ou peut-être différente? Je ne sais pas, qu'un concert,
non, c'est différent. Qu'est-ce que ça c'est représente? C'est un peu différent. Bon, ça représente un grand travail. Un travail avant et un travail pendant et un travail même après de réflexion, parce que ce qu'on a... ça reste quand même une des grandes difficultés, je trouve, du métier, c'est de percevoir la différence entre quand on est en train de jouer, quand on est dans l'action, ce qu'on entend, et ensuite ce qu'on entend à l'enregistrement, juste après ce qui se passe avec le disque. On s'écoute juste après avoir joué. On n'a pas le recul d'entendre, voilà. Et tout à coup, on a obligatoirement cette petite distance qui fait que, tiens, enfin moi je continue à toujours très difficile. Je croyais jouer dans ce tempo-là, je voulais jouer un peu plus vite.
C'est difficile d'être
vite.
Son propre juge, justement, quand on réécoute, c'est assez
d'être
pénible.
D'être objectif,
comme un...
d'être à la fois subjectif et objectif, c'est dur. On est le pire critique qui soit, le pire. Et c'est vrai que cette écoute, elle est souvent un peu trop négative quand même. On a tendance à traquer tout ce qui ne va pas. Et ce qui ne plaît pas, et à se fustiger.
Alors qu'il reste quelques zones de lumière quand même.
Voilà, quand même. Mais là, peut-être qu'il faut laisser passer un certain temps. Mais sinon, j'ai la chance, grâce à Mirare, à la compagnie disque, là, justement, que René Martin a fondée, d'avoir une liberté de choix aussi, puisque vous m'interrogez là-dessus. Dans les pièces que je souhaite enregistrer, il n'y a pas, dans beaucoup de maisons de disques, depuis toujours, je dois dire. J'ai eu la chance aussi au début avec Erato, mais souvent quand même on nous disait non, pas cette œuvre-là, même si vous l'aimez beaucoup, parce qu'il y en a déjà plein au catalogue et qu'il y a plein de versions, bon, donc il vaudrait mieux aller vers ci, vers ça. Bon. Ça se comprend aussi.
Ouais,
maintenant, c'est pas vous que je vais la prendre. Le disque est en crise, la façon d'écouter a changé, la façon d'aller vers l'essence musicale elle a changé, les outils ont changé tout simplement. Et je crois que le public, par exemple, en tout cas dans le domaine de la musique classique, il voit le disque aussi, c'est au moment des concerts qu'on vend les disques très souvent, juste après le concert, parce qu'il y a un souvenir associé à un moment précis donné, et c'est une trace qu'on laisse comme ça, et en plus ils viennent de voir l'artiste, ils sont éventuellement ils vous font signer les disques après,
donc on va partir avec le souvenir,
c'est un objet qui devient effectivement une autre signification que si évidemment on achète le disque dans un magasin en plus une grande surface, donc c'est différent là. De toute façon, on est obligé de suivre l'évolution de la technique, de la technologie, des nouvelles habitudes d'écoute. Moi, personnellement, je suis un dinosaure, donc je suis très mauvaise.
Vous êtes toujours au vinyle?
Mais on y revient au vinyle, mine de rien. Vinyle et vintage, tout ça, ça sont des valeurs maintenant, de plus en plus sûres. Mais non, mais quand même, j'ai deux fils et donc à travers eux, j'ai quelques idées de l'évolution des choses.
Justement, quel jugement vous portez sur, vous avez cité tous ces mots, c'est-à-dire changement d'écoute de la musique, c'est vrai, quelqu'un maintenant sur un ordinateur en deux clics de souris va récupérer 50 versions de la Passionnata, alors qu'avant, il fallait trouver, les chercher, après avoir l'argent pour les acheter.
Exact.
Cette accessibilité, qui parfois, d'ailleurs, n'est pas obligatoirement tout le temps synonyme d'écoute, parce qu'on se retrouve avec une quantité d'informations. Vous êtes les deux, vous êtes mélomane d'un côté, vous écoutez en tant qu'auditeur, en mélomane, et en même temps, vous êtes parti, vous êtes de l'autre. De côté, j'allais dire, de la caméra, du micro. Donc, quel jugement vous portez sur, ou quel jugement, quelle opinion vous avez sur par rapport à ce qui se passe actuellement, cette période un peu de transition, de crise du disque également, vous avez souligné.
C'est vrai que ça donne un peu le vertige, parce que vous avez tout à fait raison sur le fait que le mot écoute est très important. Est-ce que maintenant on écoute vraiment? est-ce qu'on n'écoute pas un peu moins bien qu'autrefois? Et c'est pour ça que le concert reste irremplaçable, parce que même si Dieu sait que c'est souvent désagréable, il y a encore des gens qui toussent et des portables qui peuvent sonner à des moments, des sommets d'émotion, et paf, voilà, ça disparaît dans une gorge irritée ou dans le fond d'un sac, ouais. Il y a une petite sonnerie guirette qui
c'est Marc-André Hamelin, je crois, qui a composé une petite sonate à partir de la sonnerie de Nokia. Quand en concert, il la joue, il s'arrête et il fait il a fait une sorte de petit arrangement autour la sonnerie de Nokia, justement.
C'est vrai que ça peut gâcher bien des choses. Ouais. Mais néanmoins, bon, supposons une salle qui ne tousse quasiment pas et puis il n'y a pas de portable. C'est vrai que ce qui se passe là, dans ce moment du concert, et pour le public et pour l'interprète, c'est totalement irremplaçable. C'est vraiment la musique, c'est ça, d'abord. Alors, cela étant, j'écoute quand même beaucoup de disques, et j'écoute la radio aussi, des concerts retransmis. Et c'est vrai que si on se dit vraiment « j'écoute », ce n'est pas passif. Il y a une attention, une concentration et un élan de soi-même qu'on doit avoir envers la musique, une disponibilité, et au fond faire silence en soi pour écouter vraiment la musique. Et maintenant, l'époque actuelle traque le silence, le débusque au maximum, de même que nous sommes assaillis par les yeux aussi, il faut tout le temps y avoir quelque chose à voir, mais il faut aussi tout le temps quelque chose qui traîne dans les oreilles. Probablement que c'était moins autrefois. Et le côté zapping aussi, vous voyez, on n'a plus d'espérance de vie, d'accord, mais quand même, on n'a pas.
Mais toujours, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps. C'est ça. Finalement. Donc vous parlez des 50 versions de la passion. Ouais. Ça, c'est vrai. Il faut s'arrêter, s'y consacrer toute une journée au moins, et puis. Quand je dis ça, bien plus que ça. Donc c'est impossible. Donc c'est vrai que la masse, l'afflux des informations et des propositions est tel que moi, de temps en temps, je trouve que ça flanque le vertige et qu'on aurait envie d'être presque dans le zen, dans aller au désert. Je sais pas.
Est-ce que justement, par exemple, vous dites on a besoin de temps en temps par. Quand on emmagasine, surtout au long d'une carrière, d'une vie, toute cette musique, toute cette connaissance, toutes ces interrogations sur soi-même, etc., justement, il y a besoin de... Puis en même temps, on est pris une sorte de flow permanent, de concert, d'enregistrement. C'est pas désagréable non plus, j'imagine.
Non.
Mais par rapport à cette chose si intime, si personnelle, si on reprend Chopin, c'est quand même incroyable, quelque chose d'un compositeur qui, vous avez dit, effectivement, jouait au conservatoire, puis qui a une sorte d'exposition énorme, et qui en même temps est tellement intérieur et tellement personnel, c'est un peu les deux opposés. On a ce côté un peu... Donc comment on arrive à trouver des sortes de petites bulles d'air, des poches pour justement se ressourcer et arriver à se retrouver avec soi-même, sa musique
c'est difficile. C'est-à-dire que ça ne se décrète pas forcément. C'est vrai qu'on peut essayer de se mettre en condition et que d'une façon globale, générale, c'est bien de pouvoir en effet de temps en temps s'isoler, loin de la foule déchaînée, comme disait l'autre, et loin du bruit et de la fureur. Mais il y a aussi, et c'est aussi un des miracles de la musique, paradoxalement, c'est que la musique recrée en soi-même ces fameuses bulles dont vous parliez, et même en concert, tout à coup, on peut se sentir on est dans la contemplation d'une certaine façon, on échappe, on joue, donc on peut dire qu'on est en train d'agir, mais on est aussi en train de recevoir, et on est aussi dans une forme d'abandon, enfin dans l'idéal, quand les concerts réussis, pour moi ça se passe comme ça, c'est lorsque j'ai la sensation de me transformer en public et de recevoir. Et il se trouve que ça passe par mes mains, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau du clavier, mais que je suis en train de recevoir. Et donc il y a une forme de relâchement, vous voyez, dans l'abandon, j'entends. Et ça, c'est vrai que c'est cadeau, c'est la grâce absolue, parce qu'à ce moment-là, on est comblé, on est hors du temps. D'ailleurs, on est dans un autre temps. La musique, c'est pas le temps de l'horloge. C'est aussi, on décroche d'une certaine réalité pour entrer dans une autre. Là, c'est difficile à expliquer parce que la musique, c'est autre chose que les mots, et il y a un moment où on ne peut plus dire avec les mots ce qu'est la musique. Il n'y a que la musique qui peut le dire. Je crois que c'est pour ça qu'elle existe, qu'on en a besoin d'ailleurs, parce qu'elle, elle, vous avez forcément, vous, les auditeurs de Comus, eu à certains moments, écoutant une œuvre musicale, à des moments précis, tout à coup on a la chair de poule, on a une, comme une décharge électrique. Enfin, À des moments qu'on ne prévoit pas forcément et qui correspondent, on ne sait pas trop à quoi. Est-ce que c'est une modulation, un changement d'éclairage, un changement de couleur, un son particulier, un timbre? Et tout à coup, c'est comme s'il y avait dans le cerveau profond quelque chose de soi qui coïncide avec ce fragment-là, ce signe de vie qui est dans la musique. Et on ne sait absolument pas de quel ordre ça. On a encore plein de choses à explorer dans le cerveau, mais là il se passe quelque chose qui nous dépasse totalement. Et c'est béni.
Quelles sont vos envies actuellement? Est-ce qu'il y a des répertoires, des choses que vous aviez peu explorées qui vous attirent énormément? Ou est-ce que vous avez des... Comment ça
Bien
se passe
sûr,
que c'est cyclique
bah,
est-ce que vous avez...
C'est
comment
cyclique,
ça, par
mais
rapport
le problème, c'est que la vie n'est pas cyclique. Et que je sais que ça aura une fin et que donc, maintenant, je commence à regarder ma montre symboliquement en me disant, bon, là, je ne peux plus... Je ne vais pas aller dans des chemins de traverse. Je ne vais pas m'offrir d'essayer de jouer telle ou telle chose qui aurait du charme, mais dont je peux me passer, qui aurait des qualités. Mais il me faut aller vers des musiques vitales, qui me sont vitales, ou y revenir, parce qu'il y a ça aussi, évidemment. Et ça, c'est cyclique, c'est vrai. Le Mozart, c'est vrai que je continue à avoir besoin de rejouer régulièrement sa musique. J'ai joué à peu près une quinzaine de concertos, mais je voudrais, si possible, les jouer tous. Et jouer d'autres pièces aussi. J'ai joué toutes ces sonates, mais il y a des variations, il y a des pièces séparées que j'aimerais aussi jouer de lui. Revenir à Jean-Sébastien Bach, parce que revenir et venir, puisque j'ai joué beaucoup de choses, mais il m'en reste plein que je n'ai pas joué non plus de lui. Et Beethoven, donc au fond, quand même les grands fondamentaux.
Back to the basics.
Quand même aussi d'explorer davantage Debussy. J'ai joué tout Ravel, mais j'avais laissé un petit peu Debussy. C'est vrai que j'aime énormément. Alors, vous me direz peut-être aussi qu'il n'y a pas beaucoup de musique contemporaine là-dedans.
Ce que j'allais vous demander, justement.
Oui.
Vous avez joué du Tilleul.
J'ai joué du Tilleul, qui est un grand classique. J'ai joué aussi un petit peu Philippe Hersant, qui est plus contemporain. Mais enfin, bon, c'est pas un langage révolutionnaire. mère. C'est... Mais là, je vais déléguer ça à mon fils qui a 22 ans et qui est entré au conservatoire, hein, qui, est, très, qui a des grandes mains et qui, voilà, et qui déchiffre très bien. Moi, je déchiffre pas bien. Ça me prend du temps. Donc, c'est une histoire de temps. Si j'étais violoncelliste ou harpiste, je pense que je passerais le plus clair de mon temps à jouer de la musique contemporaine et à demander à des compositeurs d'écrire pour mon instrument. Le problème au piano, c'est que... Il nous faudrait, on n'a malheureusement pas prévu de faire vivre 3 siècles les pianistes, on n'a pas droit à plus. Or, on, ça, c'est pas juste et ça complique beaucoup la vie. Donc, voilà, je me suis... je pense que je n'aurais pas... Et c'est pas par manque d'intérêt, parce que j'écoute, de l'aide, et je fais partie du jury qui aide des jeunes compositeurs, j'écoute, je m'intéresse à cette musique. Mais c'est vraiment une histoire de, d'investir du temps, dans, et notamment aussi souvent ce qui arrive avec la musique contemporaine. Et ça, c'est un gros problème, y compris pour les jeunes. C'est que souvent on vous demande, et je l'ai fait dans mon passé, de monter une œuvre spécifiquement pour une circonstance donnée, et après, vous ne la rejouez plus, on ne vous la redemande pas, et non seulement ça, quand vous la proposez, on vous, les organisateurs de concerts disent « Ah ben non, le public, ça, il ne va pas venir, il faut remplir la salle. » Donc, voilà, en termes triviaux, on n'amortit pas le boulot. Et c'est vrai que ça, c'est quand même... quand vous passez des mois sur une œuvre à la montée, c'est, vous la jouez une seule fois, il n'y a même pas de disque, rien de... Bon, on réfléchit, à un moment donné, on se dit là, ah, je ne peux plus... C'est un luxe, quoi.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, la folle journée, côté un peu festival, ce rendez-vous atypique qui brasse un nombre de musiciens impressionnants, un public très très éclectique et très impressionnant aussi, des gens qui vont au concert classique pour certains d'ailleurs pour la première fois, parfois même pour certains peut-être pour la dernière, un jeune public, vieux public, enfin tout, etc. Est-ce que... Parlez-nous un peu de ce que ça représente pour vous.
Est-ce c'est
que
une manifestation totalement unique en son genre, qui est sidérante par infiniment de côté. Enfin, je pense que de toute façon c'est indescriptible et qu'il faut venir à la folle journée pour voir ce que c'est que la folle journée. Par exemple, tout simplement à travers mon exemple personnel, j'en ai parlé beaucoup à mes enfants. Tant qu'ils n'y étaient pas allés, ils essayaient d'imaginer, mais bon, pourtant je leur donnais des détails, des précisions. À partir du moment où ils sont venus, ils ont été, y compris mon fils plus jeune qui à ce moment-là faisait beaucoup de danse, breakdance, hip-hop, donc n'était pas particulièrement tourné vers le fait d'écouter de la musique classique. Il a été absolument saisi et il a dit la fin de journée, ça change un homme. Alors donc, lui, il a été conquis immédiatement. Ce qui est entre autres choses étonnant ici, c'est que l'immensité de l'offre, il y a une abondance inouïe d'œuvres proposées au public et de concerts. C'est qu'au lieu de gaver, au lieu de donner l'indigestion, au contraire, ça aiguise l'appétit, ça renforce. Et je crois que ce que le public aime, en dehors du fait qu'au départ, les concerts sont courts, donc 40-45 minutes, pas cher, qu'ils font leur parcours, donc ils se font leur menu, comme ça, ils choisissent d'écouter quatuor, piano seul, œuvre avec orchestre, ou je sais pas comment c'est, Jean-Sébastien Bach, les messes, etc. Mais là, ce fait d'avoir cette variété, donc, ça les, à la fois, ils font leur propre folie à travers la folie, et puis
il y a la
liesse collective, et puis il y a le fait de croiser les artistes comme ça, de se rencontrer, ce que je ne peux faire qu'ici, et j'aurais malheureusement pas trop le temps cette année, mais autrement, ce que je faisais à chaque fois, c'est sortir de scène où je viens de jouer et aller écouter
les
concert.
Autres.
Donc, de la scène à la salle, ça circule, vous voyez, qu'il y a une... Et c'est comme si on était embarqué sur orbite vers une autre planète, je trouve. Et on est... Et tout à coup, on dans une espèce de surchauffe émotionnelle, affective, artistique, humaine. Et la plupart du temps, vous rencontrez des visages souriants, les gens sont heureux et on se trouve que ça leur fait du bien. Je suis sûre qu'il y a moins de tranquillisants consommés à Nantes pendant la folle journée. Il faudrait demander
avec des laboratoires, faire un...
Je suis sûre que pour la sécu, c'est bien tout ça.
Ah, vous avez dit, si j'avais le temps, dès que je sors de scène, je vais écouter. Dans la vie de tous les jours, est-ce que la musique, vous l'écoutez comment? Est-ce que vous êtes une sorte de gloutonne? Vous écoutez tout le temps, vous mettez tout le temps des disques? Vous avez dit tout à l'heure, vous écoutiez un peu la radio? Est-ce que vous rentrez encore de temps en temps dans des magasins de disques? Vous allez au concert régulièrement?
Oui.
Comment vous, pour utiliser un mot horrible, comment vous consommez la musique aujourd'hui? Autre que celle que vous jouez, évidemment.
Mais c'est vrai que je la dévore et que je suis gloutonne. Vous avez raison, mais je suis gloutonne de beaucoup de choses. Je suis gloutonne de livres aussi. Donc, j'achète plus de livres que je n'ai le temps véritablement de...
Vous êtes comme tout le monde, vous avez la pile, la pile est déjà grande, des livres à lire, on en rachète régulièrement.
On en rachète régulièrement, et puis on veut aussi retourner vers les grands classiques. Alors là aussi, il y a une histoire de temps, c'est pas facile, mais sinon, oui, bien sûr, j'achète des disques. Si je mets le pied dans un magasin de disques, en général, je ressors avec... Les sacs pleins et c'est dramatique. J'enregistre aussi des choses sur CD à la radio parce que je me dis ce concert-là, je voudrais l'écouter. Alors, malheureusement, on n'a pas en même temps offert le temps et la disponibilité pour ça. Mais c'est vrai que spontanément, si je pouvais faire que les journées, évidemment, aient 48 heures, ça m'arrangerait bien. Ça m'arrangerait bien. Et puis, bon, et le fait d'avoir des enfants, ça prend aussi beaucoup de temps et qui est un temps, encore une fois, c'est le temps de la vie et ça nourrit la musique aussi. Mais oui, je suis une gloutonne, vous avez raison, c'est un bon mot.
Pour terminer, juste pour revenir à Chopin, s'il fallait choisir une œuvre comme ça qui vous tient plus à cœur, il y en a sûrement plusieurs, mais juste comme ça, une qui revient quand même régulièrement, qui est un peu votre doudou,
doudou, et avec Chopin, ce serait pas le mot, parce que c'est un côté confortable et rassurant que n'a pas sa musique, et qui est
une source
telle exigence. Il y a une pièce magique qui est la berceuse. Alors à chaque fois, je suis plongée dans... À chaque fois que je joue cette pièce, c'est vraiment dans une forme d'émerveillement... C'est un tel morceau de poésie et de... C'est même une sorte de métaphore, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, la main gauche est toujours la même, il y a une espèce de pulsation qui ne bouge pas, la main gauche, qui est tout le temps là.
C'est même un peu atypique pour presque...
Oui, c'est vrai, et d'ailleurs il s'est arraché les cheveux pour l'écrire, il a dit que c'était son tour pour écrire, il n'y arrivait pas, mais enfin le résultat est une
pure merveille. C'est pas la plus chopinienne des...
Non, mais c'est un objet musical parfait et qui à chaque fois a cet effet-là sur moi d'émerveillement. Comme si on se mettait devant un vitrail et qu'on voit le jeu de la lumière. Et là, il y a pour moi du temps suspendu. J'aime ça. Ça me fait penser aussi à Vermeer, à Georges Latour. Vous voyez, voilà aussi des univers de peintres comme je les aime, qui sont silencieux aussi d'ailleurs. Pour moi, il y a aussi des tableaux silencieux et des tableaux qui hurlent et qui sont fantastiques aussi. Francis Bacon ou Picasso, mais ça hurle souvent. La Demoiselle d'Avignon, ça hurle. Ça. Et il faut, bien sûr, qu'il y ait des œuvres comme ça, mais ces peintures de Vermeer ou Georges de la Tour, avec leur mystère et leur clarté en même temps, je pense qu'on peut terminer là-dessus avec Chopin. Pour moi, en tout cas, mystère et clarté.
Merci Anne Kefelec.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.